Il est 10h à Paris, une heure de moins en temps universel.
Clotilde Dumay.
Dans ce journal, la Serbie qui s'apprête à vivre une journée de contestation d'ampleur, nouvelle mobilisation contre la corruption dans une ambiance de plus en plus explosive pour le président Vučić. Les Européens, l'OTAN ou encore le Canada déjà tournés vers l'après-guerre en Ukraine. La visioconférence depuis Londres entre une vingtaine de dirigeants pour préciser les modalités du maintien d'une éventuelle future paix alors que les combats se poursuivent et que la Russie dit avoir intercepté 126 drones la nuit dernière. Et puis l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis déclare persona non grata par le secrétaire d'État américain. La dernière preuve de la relation de plus en plus tendue entre les deux pays. Le président serbe va-t-il encore tenir face à cette nouvelle manifestation d'ampleur qui s'annonce à Belgrade? Des dizaines de milliers de personnes attendues dans la rue encore aujourd'hui. La mobilisation contre la corruption se durcit plus de 4 mois après l'effondrement meurtrier d'un auvent de la gare de Novi Sad. Mobilisation portée par les étudiants qui sont déjà arrivés en masse hier soir dans la capitale serbe depuis des dizaines de villes du pays. À Belgrade, les précisions de l'envoyé spécial de RFI, Jelena Tomić.
Des sourires, des larmes, des applaudissements, cela fait des mois que les mêmes scènes de liesse éclatent partout en Serbie. Hier soir, des dizaines de milliers de Belgradois ont accueilli dans une ambiance festive leur libérateur dont la bravoure et la détermination forcent le respect. Depuis 5 jours, certains d'entre eux ont entamé des marches de plus de 190 km depuis Niš au sud ou Subotica au nord pour rejoindre la capitale avant le grand rendez-vous de ce samedi qui s'annonce déjà comme historique. Familles, petits et grands, jeunes et plus âgés, ont explosé de joie à l'arrivée des marcheurs pour lesquels on a sorti le tapis rouge. Les artères centrales, noires de monde, ont de nouveau résonné au son des sifflets et des vuvuzelas et du désormais fameux cri de ralliement « Pumpay », devenu le symbole de cette révolte étudiante et qui signifie littéralement « pompe », comme pour faire exploser un ballon. Jelena Tomić, Belgrade, RFI.
La Russie dit avoir intercepté 126 drones ukrainiens dans la nuit. Dans l'autre camp, le gouverneur de la région de Kherson a rapporté sur Telegram la mort d'un quadragénaire retrouvé sous les décombres d'une maison détruite par une frappe de Moscou. Dans la région russe de Koursk, Vladimir Poutine appelle les Ukrainiens à déposer les armes. Alors que Donald Trump lui a demandé d'épargner la vie de milliers de soldats, le président américain qui s'est exprimé après la visite de son émissaire à Moscou et qui a salué des discussions productives.
Je pense que la Russie va conclure un accord avec nous, j'espère. Nous avons parlé avec le président Poutine, nous avons parlé avec beaucoup de gens et l'Ukraine attend. Je suis très préoccupé par le front. Il y a actuellement au front un groupe très vulnérable de soldats ukrainiens qui sont encerclés. Et ce n'est pas bon car nous ne voulons pas qu'ils meurent.
Et l'état-major de l'armée ukrainienne a rectifié en assurant qu'il n'y avait pas de menace d'encerclement des unités, même si le président Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est très difficile dans la région de Koursk. Et puis parallèlement, une visioconférence est donc organisée ce matin depuis Londres avec une vingtaine de dirigeants occidentaux prêts à aider au maintien de la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu. À Pretoria dénonce une expulsion regrettable. L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis déclaré persona non grata par le secrétaire d'État américain. Il n'est plus le bienvenu à Washington, selon Marco Rubio, qui accuse Ebrahim Rasoul de haïr les États-Unis et le président Donald Trump. Un message posté alors que les relations entre les deux pays, Paul Lorgerie, sont de plus en plus tendues.
Le secrétaire d'État Marco Rubio a par ailleurs ajouté que l'ambassadeur Ebrahim Rasoul nourrit les tensions raciales et que l'administration Trump n'a plus rien à lui dire. Un poste agrémenté d'un article du site ultraconservateur Breitbart, rapportant qu'Ebrahim Rasoul avait accusé Donald Trump d'être à la tête d'un mouvement suprémaciste blanc mondial. Ebrahim Rasoul, 62 ans, avait présenté ses lettres de créance le 15 janvier dernier. À ce moment-là, Joe Biden était encore en poste, Donald Trump ayant prêté serment 5 jours plus tard. Dans une interview accordée la veille aux médias sud-africains SABC News, Ebrahim Rasoul avait reconnu que sa tâche serait ardue et qu'il serait nécessaire de remettre les compteurs à zéro et de reconstruire la relation entre les deux pays. Car Ebrahim Rasoul connaît bien les États-Unis. Il y avait déjà été ambassadeur entre 2010 et 2015 sous l'administration de Barack Obama. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau coup de butoir infligé à la relation entre Washington et Pretoria. Le mois dernier, le président américain avait déclaré la suspension de tous les financements à la nation arc-en-ciel à cause d'une loi d'expropriation l'expropriation des terres qui, selon Donald Trump, opprimerait la minorité blanche sud-africaine, ce que Pretoria a toujours nié.
Les explications de Paul Lorgerie. Les rues de la Havane plongées dans le noir. Nouvelle panne générale de courant à Cuba, la quatrième en moins de 6 mois. La panne due à un effondrement du système électrique national et à la vétusté des 8 centrales thermoélectriques du pays. Après Saint-Martin, le ministre français des Outre-mer attendu aujourd'hui à Saint-Barthélemy, puis en Guadeloupe, tournée de Manuel Valls dans les Antilles. Il terminera par la Martinique, avec notamment la question de la vie chère après les émeutes de l'automne dernier. Les soutiens de Boualem Sansal veulent davantage mobiliser, y compris au niveau international, pour venir en aide à l'écrivain franco-algérien. Ils se sont réunis hier soir à Strasbourg, dans l'est de la France, alors que Boualem Sansal est détenu en Algérie depuis 4 mois pour atteinte à la sûreté de l'État. Son avocat a annoncé cette semaine son intention de saisir les Nations Unies pour dénoncer une détention arbitraire. Reportage donc auprès des soutiens de l'écrivain à Strasbourg, de Violaine Munoz-Boileau.
Une centaine de personnes ont répondu à l'invitation de la LICRA et du comité de soutien à Boualem Sansal. Au premier rang, des personnalités politiques locales et nationales de différents bords, comme l'ancien ministre de l'éducation macroniste Jean-Michel Blanquer ou l'ancienne ministre de la culture socialiste Catherine Trautmann.
Au sein de la France, nous devons avoir une expression forte qui soit transpartisane, qui puisse donner le poids à ce que nous voulons exprimer, ce soutien sans condition à Boualem Sansal.
Pendant 2 heures, politiques et intellectuels ont débattu avec le public de l'affaire Boualem Sansal, s'interrogeant sur les moyens de pression au niveau local. Il a notamment été suggéré que Strasbourg affiche le portrait de l'écrivain dans ses rues et use de son statut de capitale européenne pour internationaliser la mobilisation. Tout au long de la soirée, des caricatures étaient projetées sur un écran, réalisées en direct par le dessinateur de presse algérien Rilas Aynouch. Condamné en Algérie pour atteinte au président à travers ses dessins et réfugié en France depuis 2020, il s'inquiète pour Boualem Sansal.
Connaissant les gens du régime algérien, je sais qu'il est dans une situation délicate et il peut perdre sa vie à tout moment.
D'autres soirées de soutien à l'écrivain franco-algérien sont prévues à Paris la semaine prochaine et à Marseille début avril. Violaine Munoz-Boileau, Strasbourg RFI.
En sport, les rugbymen français en position idéale pour remporter le tournoi des 6 nations. Une semaine après la victoire flamboyante contre l'Irlande, le 15 de France joue ce soir contre l'Écosse et devrait donc remporter le tournoi en cas de victoire. Auparavant, les Irlandais vont affronter les Italiens et l'Angleterre sera opposée au Pays de Galles. Pour les amoureux de football, cette fois-ci, vente aux enchères prestigieuse organisée aujourd'hui à Paris par la maison Milon. De nombreux objets et accessoires retraçant 3 décennies du football français, dont le maillot d'un certain Zinedine Zidane, préparé pour la finale de la Coupe du Monde 1998. Tous ces lots étaient exposés au public hier, avant la vente. Reportage de Mathis Landais.
Attiser la curiosité, voilà l'objectif d'une journée d'exposition. Ouverte à tous la veille de l'événement, elle permet d'attirer une autre cible que les acquéreurs habituels, comme l'explique Alexis Jacquemart, responsable de la vente.
Sur ce type d'exposition, on va avoir des personnes qui sont pas du tout acheteurs, mais qui sont là un peu pour rêver, pour voir des pièces qui sont de leur, qui font soit partie d'une passion ou de l'histoire et qui veulent pouvoir les voir, presque les toucher.
Gianni, 24 ans, en fait partie. Le jeune homme ne sera pas présent à la vente aux enchères ce samedi, mais il a quand même pu observer, un peu par hasard, cette magnifique collection.
Je suis passé dans la rue, j'ai vu les maillots de l'équipe de France 98 depuis la rue, donc c'était intéressant, ça rappelle à certains souvenirs. J'y vais pas parce que c'est des trop beaux produits encore pour l'étudiant que je suis.
L'aspect financier sera aussi à prendre en compte pour Fanny. Cette fan de l'équipe de France 98, d'ordinaire pas collectionneuse, compte quand même repartir avec un objet précis.
Moi, mon rêve, c'est l'accréditation de Aimé Jacquet. Je suis venue vraiment pour voir ça. Et évidemment, le maillot de Zidane, mais le maillot de Zidane, c'est juste pour le voir. Mais plutôt les accréditations et les fanions, si vraiment je devais miser sur quelque chose, si je voulais tenter d'acheter quelque chose.
L'accréditation repérée par Fanny est estimée à 300 euros, soit 100 fois moins que le fameux maillot de Zidane. Elle aura de toute façon ses yeux rivés sur le lot 64.
Le reportage de Mathis Landais, direction Mars, fin 2026. Elon Musk annonce en tout cas vouloir y envoyer sa méga fusée Starship d'ici là, avec à son bord un robot humanoïde. Et si la mission se passe bien, des atterrissages humains d'ici 2029 ou 2031. Pour le moment, SpaceX a envoyé sa fusée Falcon 9 en direction de la Station Spatiale Internationale avec un nouvel équipage à bord qui doit remplacer les 2 astronautes américains bloqués dans l'ISS depuis 9 mois. 10h10 à Paris, grand reportage à suivre sur RFI.